Bien, nous allons commencer si vous voulez bien. Je vous disais donc que la semaine passée que nous avions trop tendance à voir les religions indiennes comme des choses extrêmement typées avec des frontières et s'opposant à d'autres religions. En fait, les frontières sont souvent très floues et on peut appartenir à ce que nous appelons, nous occidentaux, de religion sans y voir la moindre contradiction. C'est peut-être moins vrai pour le rapport entre le mazdéisme et les religions indiennes, mais l'interpénétration entre les cultes hindous et bouddhistes est tout à fait claire. Et nous le savons, pour toute une série de raisons, en particulier au niveau, non pas évidemment, si j'ose dire, des professionnels, c'est-à-dire des brahmanes ritualistes ou des moines bouddhistes, mais au niveau des croyants. Les niveaux des croyants peuvent très bien aller chez les brahmanes pour les rites que les bouddhistes ne dispensent pas, et en particulier... les moines bouddhistes ne marient pas, les moines bouddhistes ne font pas, en tout cas en principe, de cérémonie à la naissance, et à la mort, ils se contentent de paroles de consolation. Il n'y a pas de rite bouddhiste pour les laïcs. Ces rites sont faits en pays où il y a des brahmanes, par les brahmanes, en pays où il n'y a pas de brahmanes, par d'autres. L'un des meilleurs témoignages de cette interpénétration des religions, ce sont les noms des dynasties d'Odi et d'Apracha que l'on connaît depuis une vingtaine d'années et dont on sait qu'ils ont été fervents bouddhistes, puisqu'ils ont fondé de grands stupas et laissé des inscriptions nous indiquant qu'ils se vantaient justement d'avoir fondé ces stupas. Vous avez ici l'inscription qui était dans le reliquaire du stupa d'Ajitasena et celui... Et voici l'inscription beaucoup plus longue qui était dans le reliquaire de Senavarma. On ne sait pas où étaient exactement ces stupas. On sait par le texte que vous avez là que ces souverains s'appelaient les souverains d'Ori, ou d'Ori, c'est un D avec un point en dessous, que mes collègues se sont précipités pour... rapproché du mot Udiana, ce qui me paraît phonétiquement à la rigueur possible, mais très, très peu probable historiquement, parce que l'Udiana, c'est la basse vallée du Swat, et la basse vallée du Swat, c'est la partie la mieux connue de la vallée du Swat. C'est là que les Italiens travaillent depuis 1960. Et ce serait étonnant qu'on ait trouvé deux grands stupas là sans que personne ne l'ait jamais su. On ignore absolument. Alors, la dynastie est donnée dans l'inscription de Senavarma et qui indique quels sont son père, son grand-père. Il y a un ancêtre mythique qui s'appelle Ishmao. Qui est un nom qui n'est absolument pas indien et qui est probablement un nom local. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de langues non indiennes dans la région. Mon collègue Falk voudrait que ce soit un rendu moyen indien du mot Ijvaku, qui est une dynastie védique connue, mais comme tous les autres noms sont sanscrits, on se dit que s'ils avaient un ancêtre mythique aussi glorieux qu'Ikshvaku, ils auraient restitué la forme sanscrite, d'autant plus que passer de Ikshvaku à Ishmao n'est pas simple. Donc Ishmao, c'est un petit roi local d'une vallée du Swat où on ne parlait pas une langue indienne. Ensuite, nous avons un Bhadrasena, qui est un Rajan, c'est-à-dire un petit roi. On a envie de traduire, parce que c'est du sanskrit, celui dont l'armée est bénéfique. Et puis on s'aperçoit que tous s'appellent soit en Sena, soit en Varma. Et on se dit que très probablement, le mot ne doit pas être traduit, que vous avez un composé où on a rajouté le mot Sena, parce que l'armée, parce que ça signifie la famille. Et devant un de ses successeurs s'appellera ainsi Disha Sena, ce qui ne veut rien dire, celui dont l'armée est par la montagne, parce qu'en plus c'est un halon difficile à expliquer. Vous avez un autre qui s'appelle Vijita Sena, et si vous le traduisez comme ça, ça signifie celui dont les armées sont vaincues, ce qui est assez difficile. Alors, on peut expliquer ça. C'est une mauvaise sanskritisation d'un mot qui, en sanskrit, aurait été Vijaya. Mais en sanskrit, ça signifie celui dont les armées ont été vaincues, à la rigueur, celui qui vainc les armées. Et son fils, lui, c'est celui dont les armées n'ont pas été vaincues. Et puis, ils ont une série de descendants qui portent des noms en Varman, le Varman étant le suffixe donné au nom Kshatriya, d'après les textes de loi, ce qu'on appelle les Dharmashastras indiens. Et vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle Varmasena, l'autre qui s'appelle Sena Varma, l'autre Ajita Varma. Il y a un Arya Sena dont on ne connaît pas très bien la situation. Les quatre noms du bas vous montrent qu'il ne faut attribuer aucune signification au nom. Ça a été fait par découpage. Varmasena doit être le fils d'Ajita Sena et d'une dame qui devait s'appeler quelque chose en Varma, de même pour Sena Varma, etc. On reprend donc, ce sont des noms qui n'ont pas de signification, mais qui sont des noms sanscrits. Nous ne sommes pas en milieu gandhari, nous ne sommes pas en moyen indien, ce sont des noms sanscrits, ce qui signifie qu'il y avait à la cour de ces souverains bouddhistes des gens qui savaient le sanscrit et qui est capable de savoir le sanscrit, ce sont des brahmanes. Et nous savons par ailleurs que l'une des cérémonies importantes des rites hindous pour la naissance, c'est le don du nom qui est donné par les brahmanes, les astrologues, en suivant un certain nombre de règles qui d'ailleurs ne sont pas très bien fixées. Les règles changent selon les textes que l'on consulte. Mais rien que ceci signifie que nous avons dans une famille qui, à partir de Sena Varma, d'Ajita Sena et de Sena Varma, c'est-à-dire aux environs de notre ère pour Ajita Sena, et dans les années 30 pour Sena Varma, est une dynastie qui se proclame bouddhiste et qui a auprès d'elle des moines bouddhistes assez savants pour rédiger les très longues inscriptions qui sont arrivées sur le marché et que j'ai jadis publiées. Si nous prenons l'autre dynastie, la dynastie d'Apraksha, qui est connue, elle, non pas par deux inscriptions, mais par une bonne douzaine d'inscriptions, ce qui permet de restituer des arbres généalogiques qui varient un peu selon le nombre d'inscriptions qu'on prend en compte. Et il y a probablement aussi un certain nombre de faux là-dedans. Mais vous avez deux restitutions, je vous en montre. Ça, c'est celle de Falk, qui suppose deux générations de plus. Ça, c'est celle de Salomon, qui suppose une génération de moins. Je vais prendre celle, il y en a une autre de Sadakata. Je vais prendre celle de Falk parce qu'elle a un nom qui m'intéresse, que l'autre n'a pas. Donc, on a, ce sont des inscriptions qui sont à peu près contemporaines de celles des rois d'Odi. Et je vous ferai remarquer que si on avait les noms des rois d'Odi sur des sceaux ou sur des monnaies, on croirait que ce sont des souverains hindous. Là, nous avons tous ces noms viennent d'inscriptions, de fondations de stupas avec dépôt de reliques, et on les retrouve aussi sur des monnaies. Vishnu Varman, par exemple, et Vijayamitra ont frappé des monnaies. Et tant qu'on avait ces monnaies, on les prenait pour des souverains hindous. Or, on sait qu'ils ont été également bouddhistes, puisqu'ils ont fondé cette énorme série de monastères avec des inscriptions dont on ne sait pas d'où ça se trouvait. Alors, on dit que c'est le Bajaur, il n'y a aucune raison que ce soit le Bajaur, sauf que personne n'y a été. Ça pourrait être aussi bien le Tira, c'est-à-dire à côté du Raiber. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, l'ancêtre, ça a un très joli nom sanskrit. Il s'appelle Mahashravas. C'est quasiment un nom védique. C'est celui dont la gloire est grande. Et la première génération, vous voyez que Falk a mis un certain nombre de dates qui sont calculées parce que certaines de ces inscriptions sont datées dans l'ère d'Azès. Et l'ère d'Azès, on est à peu près sûr qu'elle commence en 57 avant Jésus-Christ. Et donc, Vishnu Varman a laissé une inscription de 64, ce qui donne 7 de notre ère, un ou deux ans près. Donc, c'est aux environs de notre ère. C'est au moment où le bouddhisme s'établit, là, non pas au Gandhara, mais dans les vallées absolument adjacentes. Alors, ce Vishnu Varman, il n'a pas un nom védique, il a un beau nom sanskrit brahmanique avec le suffixe Varman des Kshatriyas et comme premier nom Vishnu, c'est ce qui devrait poser des problèmes à ceux qui pensent que entre Krishna et Vishnu il y a une différence et que Vishnu n'apparaît qu'assez tard. Il est ce Vishnu Varman est marié à une Rukunaka qui apparaît deux fois, dont une fois dans l'inscription que je considère fausse à triple date. Rukunaka, ça ne vous dit rien, mais c'est la traduction indienne du mot Roxane. C'est du mot Roxane qui signifie la lumineuse. C'est la même racine que Luch. Il y a un autre descendant de Mahashravas qui s'appelle Bahidatta, et c'est très curieux parce que le suffixe datta est théoriquement attribué aux gens de la classe des marchands. Littéralement, Bahidatta, ça signifie donné par la sœur ou donné par le Richard. Mais comme je vous l'ai dit, il faut se garder de traduire ces mots parce qu'on ne sait pas comment ces noms ont été formés. Ils sont souvent faits de rapiéçage. Le troisième, un autre descendant, c'est Ramaka, qui est mort en 18. Et ce Ramaka, évidemment, ça renvoie au Rama, ce qui n'est pas étonnant à côté de Vishnu Varman. Nous sommes dans la même catégorie de l'hindouisme, mais je vous rappelle qu'on a encore plus de noms en Shiva, pas dans cette dynastie, mais ailleurs. Alors, Dashaka, c'est un nom indien, c'est son épouse. Vient ensuite le fameux Vijayamitra, littéralement « ami de la victoire ». C'est ce mot « viyaya » qui est prononcé en fait « viyaha » et qui a été resanskritisé tout à l'heure en « vijita ». Donc il s'appelle Vijayamitra, aussi des environs de notre ère, hein, l'ami de la victoire, mais encore une fois, gardons-nous de croire trop à ces traductions. Jusqu'à présent, on est absolument dans une dynastie de type indien, sauf peut-être Rukunaka, qui est plus iranien qu'indien. Après tout, ce sont peut-être des gens qui ont pris des épouses en bactriane, parce que le dénommé Vaga, qui est un nom qui réapparaît à Wardak et qui réapparaît ensuite à Termez, c'est la transcription de l'iranien Baga, qui signifie théoriquement Dieu, mais qui est une épithète spécifique de Mitra. Et là, on est en face d'un nom iranien. Alors ensuite, nous avons un beau nom indien avec un suffixe de Kshatriya, Varman, et la première partie, Indra, c'est effectivement ce nom, un dieu védique qui apparaît fréquemment sur les reliefs bouddhiques, dont on a même des statues portant son nom, mais dont on considère qu'à l'époque, il n'est plus révéré en tant que dieu par les hindous, sauf à l'occasion des rites védiques, s'ils sont encore faits à cette époque-là, puisque les dieux de type Indra ont été remplacés par Vishnu et Shiva, en tout cas dans la dévotion populaire. Il est marié à une dame qui s'appelle Uttara, qui signifie simplement la nordique ou la supérieure. Les noms de femmes sont moins typés que les noms d'hommes. Et Indra Varman a eu comme sœur une dame qui s'appelle Subhutika, c'est-à-dire la féconde, la bienheureuse. Et puis, nous avons dans la génération suivante le même phénomène que dans la dynastie d'Apratcha, des noms qui sont faits en coupant les noms de parents en deux et en mettant la moitié du nom du grand-père paternel avec la moitié du nom du grand-père maternel, donc un Indra Vasu, et qui est marié à une Vasumitra. Nous sommes toujours dans des noms hindous. Une autre branche, celle d'Indra Varman et d'Uttara, qui ont donc des noms tout à fait sanscrits, tout à fait hindous, ont des noms en Varman, Ashpa Varman, Vishva Varman, mais Ashpa et Vishpa ne sont pas des formes sanscrites. On devrait avoir en sanskrit Ashva et Vishva. En fait, on a là des mots dont la première partie est en Gandhari et dont la seconde partie est en sanskrit. Et il est marié avec... Vishva Varman est marié avec une dame qui s'appelle Shishirena, qui signifie la froide. Bon. La troisième partie de la même génération, vous avez un Indrasena encore vivant en 21, donc là, encore une fois, un nom fait de morceaux, et on peut se demander si cet Indrasena n'appartenait pas à la dynastie d'Odi, Et puis, vous avez un autre qui s'appelle Chatruleka, où le premier mot Chatru est du sanskrit, l'ennemi, et Leka est un mot dont on peut trouver une étymologie sanskrite, mais qui ne signifie pas grand-chose. En tout cas, la première partie est sanskrite. Et celui-ci est encore vivant en 21, et il est marié à une dénommée Davili, qui est un nom pas attesté. Vous revoyez que le Vijayamitra réapparaît à droite dans la troisième, par son petit-fils qui porte son nom, et de même, le petit-fils d'Indravarman porte par... via Vishvavarman et Shirena, porte le nom d'Indravarman. Et de même, la dernière génération, là, c'est le fils d'Indrasena qui porte son nom et qui, de façon bizarre, dans cet arbre généalogique, a un frère qui porte un nom grec, Menander. Alors, ceci vous donne un exemple de gens qui sont tout à fait bouddhistes, qui se réfèrent à un ancêtre au nom védique, avec des noms qui, pour la plupart, sont des noms sanscrits, et où apparaissent des noms iraniens, y compris des noms de mâles, hein, Vaga, par exemple, est un mâle, et des noms grecs, Menander. Et le nom grec, il apparaît après 21, hein, puisque le père de Menander, Chatruleka, vivait encore en 21. Bon, alors il y en a encore un autre, hein, si on veut. Là, c'est la même dynastie, mais arrangée d'une autre manière. Là, Salomon met comme ancêtre un Vijayamitra. Et puis, vous avez une première génération avec Vasumitra et Indravasu. Encore ces petits mots, ces noms faits de découpage. Mahasravas, là, n'est plus l'ancêtre. Et il se retrouve. Et le nom qui apparaît, un nom qui apparaît, mais encore une fois, tout dépend de savoir si... l'inscription est vraie ou fausse. Vous avez un nom qui apparaît dans la troisième ligne. Vous avez Uttara qui est marié à Indravarman, ça ne bouge pas. Vous avez une Vasava Datta qui est la sœur d'Indravarman, une Mahaveda, nom absolument intraduisible, littéralement celle dont la science est grande, mais ça n'a pas de sens, et Nika, qui est le mot grec de la victoire. Là, vous n'avez pas de Menander, mais vous avez un Nika. Parallèle à Mahaveda, vous avez un Mahavarman et un Mahendra. Et ce n'est pas étonnant si les noms des deux fils commencent par Maha. Et puis, vous avez un dernier qui serait Sasa. Bagamoya n'existe plus, c'est une fausse lecture. Sasa, qui serait un dynaste de la famille de Gondophares, sans doute le dernier Indoparthe. Donc, vous voyez que nous avons dans ces inscriptions toute une série de noms de provenance diverses. C'est tout à fait caractéristique du mélange des religions et du mélange, disons, des ethnies. Et c'est caractéristique de la façon dont des dynasties locales, ce qu'on appellerait maintenant des Maleks, des chefs de village, s'indianisent. Ils s'indianisent d'abord en prenant des noms hindous, c'est-à-dire en faisant venir ou en subventionnant deux ou trois brahmanes qui font les rites traditionnels. Il n'y a pas à s'étonner. Hein, dans les grandes dynasties bouddhistes modernes de Thaïlande et du Cambodge, il y a à côté du roi des brahmanes chargés des rites royaux. Et ils s'indianisent d'une autre manière, en accueillant la religion en expansion, c'est-à-dire le bouddhisme. Et cet accueil de la religion en expansion, ce n'est pas simplement de faire une profession de foi, de croire dans les vérités du bouddhisme ou de prendre ce qu'on appelle les cinq premières défenses, respecter son père et sa mère, ne pas tuer, dire la vérité, un certain nombre de choses très, très simples. Ça consiste surtout à nourrir des moines. La chose qu'il faut dont il faut se pénétrer absolument, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion véritable au bouddhisme sans fondation d'un monastère et établissement d'un stupa. La fondation d'un monastère suppose la présence permanente d'au moins 5 moines, puisqu'il faut 5 moines pour que les rites soient valides. Et évidemment, ces moines, il faut les nourrir. La construction du monastère et du stupa en soi, c'est pas très cher, parce que ce sont des constructions qui ne demandent pas une habileté extrême. C'est du caillou et de la terre. Il faut simplement un architecte qui surveille que ça soit un peu bien fait. Et cet architecte est souvent un des moines bouddhistes, ce qu'on appelle le Navakarmika, celui qui est en charge des travaux neufs. Mais ça, ça ne coûte pas très cher. Si l'on veut rajouter des reliques, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut les trouver. Et puis, il y a des cérémonies d'installation qui, elles, également, coûtent cher. On peut se demander dans ces régions d'où vient l'argent. La seule réponse, c'est que ces petits princes ont fourni des contingents de troupes à tous les envahisseurs nordistes de l'Inde, c'est-à-dire d'abord aux Indo-Grecs, mais surtout aux Saka, aux Kushans et même aux Indo-Parthes, puisqu'il y a un Sasa, et que l'argent qui a permis de sanctuariser et de bouddhiser une région en établissant un stupa et des reliques selon une formule employée dans les inscriptions dans une région où il n'y avait pas auparavant de fondation bouddhique, cet argent il vient des razzias qui ont été faites dans la plaine indienne autour de Mathura, un peu partout. Voilà. Alors, cette image que vous nous donne ces arbres généalogiques des dynasties d'Odi et d'Apracha, on ne les connaissait pas il y a simplement 30 ans. Quand on commençait à les connaître, j'ai pu y faire allusion dans mon article sur, je ne sais plus comment ça, de 1994, d'un recueil que j'ai édité qui s'appelle « Bouddhisme et culture locale ». Et on commençait à voir la dynastie d'Apracha. Ça s'appelle « Upaya Kaushalya », l'implantation du bouddhisme au Gandhara. Ce qui s'est passé depuis, c'est que nous avons eu beaucoup de découvertes, dont certaines fausses, mais beaucoup de découvertes, et que ce que j'ai écrit en 1994, ce qui n'est quand même pas si vieux, hein, ça fait 15 ans, enfin un peu plus, 17 ans, est maintenant non pas périmé, mais devrait être complété parce que les découvertes changent tellement la façon dont on peut voir les choses qu'il faudrait tout reprendre à zéro. Il faut bien vous dire que vous êtes dans une période de révolution dans nos conceptions et que si vous ne suivez pas la littérature qui paraît, c'est-à-dire les publications faites par mon collègue Salomon de Seattle et ses élèves et celles faites par mon collègue Falk de Berlin et son élève Ingo Straur, eh bien, vous en restez à une vision qui est celle d'Emmanuel et qui est une vision dont on sait maintenant qu'elle est fausse. Pour reprendre les choses de façon simple, ce qui n'a pas beaucoup progressé, c'est ce que nous savons de l'implantation du bouddhisme au Gandhara. N'oubliez pas que je parle toujours du Gandhara. Il n'y a pas eu de fouilles spectaculaires et on en est toujours à des données dont les plus récentes sont les données de la fouille de Saïdou Sharif et de Mingora, ce qu'on appelle Boudkara, au Swat, par les Italiens. Mais on voit très bien que le bouddhisme apparaît en principe directement. Le bouddhisme apparaît légendairement dans le Gandhara à partir de la mort du Bouddha. Ça, c'est la légende qui veut que le Bouddha ait envoyé un certain nombre de ses disciples convertir les différentes parties de l'Inde. De cette légende, il n'y a rien à retenir, sauf peut-être que la conversion du bouddhisme, du nord-ouest au bouddhisme, s'est faite à partir de Mathura. On est en terrain beaucoup plus solide avec l'époque d'Ashoka, puisque Ashoka, on a des inscriptions d'Ashoka, et Ashoka est censé avoir protégé le bouddhisme, et très certainement a favorisé l'envoi de missionnaires bouddhistes dans les territoires qu'il contrôlait. Ashoka, c'est en gros 270-250 avant notre ère. C'est à ce moment-là que les premières implantations bouddhistes ont eu lieu. Ces implantations bouddhistes, ce sont les stupas de forme hémisphérique que Xuan Zang, qui les a encore vus, appelle les stupas d'Ashoka. Il y en a au Gandhara, je crois, 6 ou 8, d'après Xuan Zang. Il y en a deux qui ont été fouillés, non pas au Gandhara, mais à l'extérieur, l'un à Taxila. C'est le stupa principal de Taxila, le Dharmarajika, et l'autre au Swat, à Boudkara, qui est également un Dharmarajika, littéralement le stupa du roi du Dharma ou du roi Dharma. Il semble bien que Dharmaraja ou Dharmarajika soit le nom des stupas d'Ashoka. Les fouilles mal faites à Taxila, très bien faites par les Italiens dans le Swat, ne permettent pas de dater précisément ces stupas. Mais ils sont aux alentours de 250-200. On est donc bien là dans les limites chronologiques des stupas d'Ashoka. Et disons qu'on peut considérer qu'il y a eu de grands stupas faits entre 250 et 200 avant notre ère, autour du Gandhara et probablement au Gandhara. Mais ces stupas sont des stupas uniques et ce sont souvent des stupas qui sont au centre de grands monastères. Ce sont très probablement des fondations royales. Et puis, on voit apparaître aux environs de notre ère un certain nombre d'inscriptions Kharoshthi qui, il n'y a pas dans les monnaies indo-grecques, pour revenir, il n'y a pas dans les monnaies indo-grecques de témoignage du bouddhisme. Les Grecs connaissent un peu le bouddhisme, mais on ne sait pas, mais vraiment très mal, et ils le connaissent surtout au 1er et au 2e siècle de notre ère. Mais les monnaies indo-grecques ne laissent aucun témoignage du bouddhisme, sauf à vouloir forcer l'interprétation. Les premiers témoignages du bouddhisme apparaissent dans les monnaies sous les couchants, c'est cette monnaie-là, mais dans les inscriptions, beaucoup plus tôt. Ce sont les inscriptions maintenant que l'on connaît, des rois d'Apracha et des rois d'Odi, et cela prouve qu'à partir d'environ 50 avant notre ère, les vallées qui dominent le Gandhara, connaissent une expansion du bouddhisme remarquable, et cette expansion du bouddhisme, elle est le fait des roitelets. On a beaucoup parlé du rôle des marchands. Quand on regarde les inscriptions, on s'aperçoit que le rôle du pouvoir politique est au moins aussi important, sinon plus important. Et si ces vallées qui surplombent le Gandhara ont connu le bouddhisme à ce moment-là, on peut considérer que le Gandhara l'avait connu un peu plus tôt. Donc la véritable implantation du bouddhisme au Gandhara doit dater du 1er siècle avant notre ère. C'est probablement à cette époque-là que les premiers monastères ont été fondés, et ensuite il y a eu un très fort développement. Et quand on regarde la carte archéologique et qu'on voit le nombre de monastères fouillés dans le Gandhara lui-même, et quand on regarde les musées et qu'on voit les milliers de statues gréco-bouddhiques, d'art gréco-bouddhique qui ont été mises au jour, sans compter toutes celles qui ont été perdues, il ne faut pas très s'étonner, parce que c'est une période qui a duré du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 6e, c'est-à-dire au minimum 600 ans. Et si on faisait les comptes des églises françaises entre 1500 et 2100, ou entre 1400 et 2000, on s'apercevrait qu'il y en a beaucoup et qu'il y a eu peut-être un peu moins de sculptures, mais qu'il y en a eu beaucoup. La période de florescence du bouddhisme au Gandhara, c'est 5 siècles au minimum, peut-être 6, c'est-à-dire rapporté à notre échelle moderne du 14e siècle au 20e siècle. Donc ça n'a pas beaucoup changé, sauf peut-être les précisions que permettent de donner les inscriptions d'Apraksha et d'Odi, qui nous montrent aussi que le rôle des dynastes locaux a été très important. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la progression du bouddhisme vers le nord, vers la Bactriane. On a toujours des témoignages des dynastes locaux. On a aussi des témoignages d'associations de cultes locales. Et il est très probable, si vous voulez avoir une idée réelle de l'implantation du bouddhisme, qu'en gros, chaque village avait son monastère, sinon plusieurs. Ce qui pose des problèmes. Comment faisait-il pour nourrir toute cette population inutile, comme on disait en France en 1789 ? En ce qui concerne les tendances de ce bouddhisme, il se trouve que nous n'avons pas non plus progressé, mais qu'on comprend les choses un peu mieux parce qu'on a progressé sur le plan théorique. Les inscriptions nous indiquent. Les inscriptions sont de ce type. En l'an un tel, disons en l'an 10, le roi d'Odi a fondé un stupa en l'honneur de ses ancêtres, et il en a confié la gestion aux maîtres, aux acharyas. Et là, on vous donne un nom qui sont interprétés dans tous les livres actuellement en vente sous le nom de secte. Il y a 4 sectes qui sont représentées, les Sarvastivadins, les Dharmaguptaka, les Mahasamgika et les Kashyapiya. Il n'y en a pas d'autres. Si vous regardez la littérature ancienne, et pas si ancienne que ça, et en particulier l'excellent livre de mon maître André Barraud qui s'appelle « Les sectes bouddhiques du petit véhicule », vous apercevrez que ce sont des sectes très connues et qui toutes relèvent de ce qu'on appelle le Hinayana, le petit véhicule, terme qui tend à sortir de l'usage parce qu'il faut être politiquement correct, et donc c'est vexer les bouddhistes qui relèvent de cette conception que d'appeler ça le petit véhicule. Bon, si vous voulez, vous pouvez appeler ça le véhicule des Shravakas ou des auditeurs, je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, Toutes les indications que nous avons par les inscriptions, c'est que nous n'avons que des sectes, je reviendrai sur ce mot, appartenant au petit véhicule. On n'a aucune autre indication sur la présence d'autres tendances, en particulier des tendances mayaniques. Et la secte, pour reprendre ce terme que je n'aime pas, la mieux représentée, ce sont les Dharmaguptaka, mais ça, ça tient en partie au hasard des trouvailles. Il se trouve qu'on a trouvé beaucoup d'inscriptions dans un site qui était Dharmaguptaka. Mais si vous répartissez les trouvailles par site, vous apercevez qu'elle n'est pas plus représentée qu'une autre. La secte la plus importante, les deux plus importantes, étaient en fait probablement les Sarvastivadins et les Mahasamgika, qui sont, et ces trois sectes, Dharmaguptaka, Sarvastivadin et Mahasamgika, sont celles qui ont le plus essaimé en Asie centrale, les Kashyapiya étant un peu moins importantes. Alors déjà, la première chose dont j'ai parlé ici un certain nombre de fois, c'est que grâce à des études de Béchert en particulier et à des études d'ethnographes, on s'est aperçu que ce qu'on appelait des sectes, qui est un vocabulaire catholique, chrétien et méprisant, ce n'était pas du tout des sectes. C'est-à-dire que il y avait des différences philosophiques, c'est ce qui intéresse beaucoup les occidentaux qui s'intéressent à la philosophie plutôt peut-être qu'à la réalité. Et le livre de M. Barreau montre que vous avez pour chacun de ces groupes des différences idéologiques qui sont extrêmement minimes, mais qu'on a eu tendance à surestimer. Il y a des catalogues, il y a des doxographes indiens anciens, comme Vasu Bandhu, qui ont fait le catalogue des opinions divergentes de ces écoles. Il y a parfois de grosses divergentes, hein, comme celle qui va séparer les Sarvastivadins des Theravadins. Mais quand on regarde d'un peu près, ce sont des choses qui sont extrêmement minimes. En réalité, ce qui compte, ce sont des divergences d'ordre rituel, et en particulier des rituels d'ordination et de lignées de patriarches. Ces divergences de rituels ont donné lieu à des divergences de costumes. La longueur de la robe monastique, sa couleur, le nombre de morceaux dont elle est composée. Et c'est ça l'essentiel de la distinction entre écoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de s'opposer sur le fond, ils sont tous aussi bouddhistes. Il n'y a pas de proclamation d'hérésie bouddhique à l'intérieur du bouddhisme. On a droit à toutes les opinions du moment qu'on respecte ce qui fait l'ossature des communautés bouddhiques, c'est-à-dire le Vinaya, la règle, celle qui est écrite dans d'énormes traités comme le Vinaya des moulins Sarvastivadins, ou est celle qui est transmise de maître à élève, puisqu'il y a une éducation des élèves importante. C'est pour cela que la traduction du mot Nikaya, qui était traduit jadis par secte, serait soit école, mais ça renvoie un peu trop à la philosophie. Et l'analogie la plus sérieuse dans le vocabulaire que nous employons, c'est celle d'ordre. Par exemple, les dominicains et les jésuites, ou à la rigueur, des différences comme ceux qui opposent les jansénistes qui ne sont pas un ordre aux jésuites. Mais ce sont des différences de style de vie. Et dans ce style de vie, encore une fois, il y a des choses aussi simples que la façon de tenir le bol ou la façon de nouer la partie supérieure du vêtement. Un ethnographe français a bien étudié ça au Cambodge, c'est M. Bizot. Ce qui est apparu, donc, on a dans les inscriptions une vision du bouddhisme qui est tout à fait celle du bouddhisme ancien. Vous attendrez un peu pour avoir la définition de ce bouddhisme ancien. Et les textes Gandhari qui ont été trouvés au départ correspondaient tout à fait à cette vision. Les premiers textes Gandhari trouvés et édités depuis une vingtaine d'années par mon collègue Salomon et ses élèves à Seattle ont été trouvés, on ne sait pas où, mais enfin probablement dans la région de Hadda. Et ils étaient contenus dans des vases qui portaient le nom des Dharmaguptaka. Ce sont des textes qui étaient dans des manuscrits Dharmaguptaka. Mes collègues américains ont fait un travail absolument extraordinaire d'édition rapide, et on sait ce qu'il y a dedans. Il y a 5 volumes parus actuellement, il y en a d'autres qui vont paraître. Ce sont des textes qu'on date au plus tôt de 50 avant notre ère, mais qui datent pour la plupart du 1er siècle de notre ère, peut-être du 2e. Vous voyez, ce sont des textes dont les plus anciens sont contemporains de la dynastie d'Apratcha et de la dynastie d'Odi, et qui nous donnent une idée de ce qu'on pouvait lire dans un monastère Dharmaguptaka à l'époque. Alors, il y a de la poésie populaire, bouddhique, évidemment. Il y a des textes qui décrivent les vies antérieures d'un certain nombre de personnages, ce qu'on appelle en sanskrit des avadanas. Quand le personnage dont on décrit les vies antérieures qui sont édifiantes, soit en bien, soit en mal, quand ce personnage n'est pas un Bouddha, on appelle ça un avadana. Et quand ce personnage est un Bouddha, c'est un Jataka. Il y a quelques versions de sutras, des versions en cours de constitution, qui sont des sutras connus dans les textes pali, donc des sutras du Hinayana, comme le Sangiti Sutra. Il y a quelques textes, quelques listes de termes plus ou moins philosophiques, des catégories, ce qu'on appelle de l'Abhidharma. Et il y a quelques textes d'éloge, c'est-à-dire des poésies que l'on récite devant une statue du Bouddha, en général, pour chanter les louanges du Bouddha, qui ne sont pas des prières, mais qui sont des hymnes de célébration. Il n'y a pas de Vinaya dans ces textes, mais c'est peut-être le hasard. Et il est clair que nous avions là une série qui était purement du Hinayana. Or, ce qui intéresse beaucoup les gens depuis longtemps, c'est la distinction entre Hinayana et Mahayana. Donc on y arrive, et l'éventuelle présence du Mahayana au Gandhara. Ce qui est un problème qui n'a rien à voir avec le Gandhara en soi. La distinction est une distinction pan-indienne, et je dirais même dans toutes les zones où il y a des bouddhistes, au Xinjiang, en Bactriane, en Chine. Vous avez simplement, dans les textes que nous avons connus en Europe dès le 19e siècle, en particulier le Lotus du Sutra, le Saddharma Pundarika, le Sutra du Lotus, pardon, le Saddharma Pundarika, vous avez une distinction qui est faite clairement entre la voie nouvelle qui va être proclamée par le Bouddha, qu'on appelle le Mahayana, la grande voie, le grand véhicule, opposée à une voie inférieure, le Hinayana, qui est la voie des auditeurs, des Shravakas, de ceux qui suivent la parole du Bouddha historique sans la comprendre. Et c'est de là que vient la distinction. La distinction se pose donc en termes de doctrine, mais avec aucun des deux ne disant que la doctrine de l'autre est fausse. La doctrine que les mahayanistes qualifient de Hinayana et que maintenant, pour des raisons de politesse vis-à-vis des moines de Sri Lanka, du Vietnam et de Thaïlande, on appelle le Shravakayana, le véhicule des auditeurs, c'est-à-dire des moines, ou le véhicule des arhantes. C'est la collection de textes qui est le mieux incarnée par la collection de textes conservés en Pali, c'est-à-dire par les Theravadins de Ceylan et de Birmanie, et qui sont censés être, pour les sutras et pour le Vinaya, la parole du Bouddha Gautama Shakyamuni, telle qu'elle a été recueillie après sa mort lors du premier concile, le concile de Rajagriha, Ananda ayant récité les sutras, c'est-à-dire les discours du Bouddha, et où Pali le barbier ayant récité le Vinaya. Les gens du Hinayana suivent uniquement cette catégorie de textes. Et les gens du Mahayana, eux, se réfèrent à une deuxième catégorie de textes qu'on appelle les Vaipulya Sutras, ou sutras très longs, et effectivement, ils sont beaucoup, beaucoup plus longs que les sutras du petit véhicule, et qui ont été proclamés par le même Bouddha, mais pas au même endroit, à Rajagriha, et non pas à Shravasti ou à Varanasi, et qui ont été proclamés et compris non pas par des auditeurs comme Ananda ou comme Upali, mais par des êtres beaucoup plus avancés dans la voie de la sainteté, les bodhisattvas, et des gens qui veulent un jour devenir eux-mêmes des bouddhas. Et ces textes nous disent que les textes du Hinayana ne sont pas faux, ils ne sont pas non plus inférieurs aux autres. C'est simplement un des moyens que un Bouddha, le Bouddha Gautama Shakyamuni, a trouvé pour amener vers la voie de la vérité un certain nombre de gens qui n'étaient pas capables d'admettre immédiatement les vérités supérieures qui sont dans les Vaipulya Sutras du Mahayana. Et qu'il n'y a donc pas contradiction entre les deux, mais simplement une différence d'interprétation et, évidemment, et aussi une différence ou de capacité et de volonté, puisque les adeptes du Hinayana veulent une libération le plus vite possible, ce qu'on appelle la libération de la rente, qui ne vous donne pas tous les pouvoirs miraculeux l'on acquiert lorsqu'on est un Bouddha, et qui, bien que très difficile à obtenir, est quand même qu'on peut quand même obtenir en quelques générations, en quelques renaissances. Par contre, les adeptes du Mahayana voient très loin et veulent rester très longtemps dans le cercle des renaissances pour sauver les êtres et accumuler des mérites qui leur feront eux-mêmes devenir un jour des Bouddhas. Ils acquièrent tellement de mérites qu'en fait, les grands bodhisattvas sont l'égale des Bouddhas, selon ce dont nous reparlerons bientôt. Alors, la semaine prochaine, je n'ai pas envie de commencer tout de suite, bien que je sois un peu en avance, mais la semaine prochaine, nous verrons comment, depuis Fouché jusqu'à moi, on a nié la présence du Mahayana au Gandhara, jusqu'à ce que les découvertes de ces 20 dernières années nous montrent que très probablement il était là, mais qu'il était invisible et qu'on ne pouvait pas le voir parce qu'il était invisible, mais qu'il était là. C'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine, et c'est la grande révolution, à mon avis, également dans l'interprétation de l'art du Gandhara. Mais je voudrais vous dire, encore une fois, que ce n'est pas un problème spécifique au Gandhara. Je ne veux pas dire que le Mahayana soit né au Gandhara, on ne sait pas où il est né. Il est né probablement dans plusieurs endroits simultanément. Il se trouve que c'est un problème qui est spécialement important au Gandhara parce que l'identification des reliefs gréco-bouddhiques dépend de savoir à quelle école ou à quel courant du bouddhisme on se réfère. Et parce que c'est également du Gandhara ou à travers le Gandhara que sont partis les moines qui sont allés en Bactriane et ensuite au Xinjiang et qui, au Xinjiang, ont apporté à la fois des textes tout à fait petits véhicules, des textes Sarvastivadins. Au Xinjiang, la majorité des manuscrits de Turfan, par exemple, sont Sarvastivadins, mais également les grands textes comme le Sutra du Lotus ou les Prajna Paramita, qui, eux, sont des textes Mahayana. Et ça, si vous voulez bien, on le verra la semaine prochaine. Je vous remercie.